Espérance de la gloire. Espérance de la gloire. La gloire. Rappelons-nous ces mots de saint Irénée. Irénée qui dit « La gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme. C'est la vie de tous les hommes. Et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. C'est de se laisser rencontrer par Dieu. » C'est vrai que, comme elle a dit, nous invitons à la prière. À notre prière, elle est là. Elle ne vient pas s'ajouter à notre méditation, à notre accueil de la parole de Dieu. Tout devient prière. Je trouve que c'est vrai, par exemple, dans l'hymne, aujourd'hui, d'ailleurs, caractérise bien peut-être tout ce que nous allons vivre aujourd'hui. L'espérance, un chemin avec d'autres pour d'autres. Qu'est-ce que nous avons chanté ? Dieu au-delà de tout créé ? Troisième strophe. Toi que nul homme n'entendit, nous t'écoutons, parole enfouie, là où nous sommes. Béni sois-tu d'avoir semé dans l'univers à consacrer des mots qui parlent aujourd'hui et nous façonnent. Oui, espérer. Hier, c'était ce chemin de l'espérance. Où en sommes-nous de ce chemin, sur ce chemin ? Par où tu es, sinon tu n'iras nulle part. Où tu es ? Nous sommes là, avec notre désir quoi, d'accueillir la parole de Dieu, d'en témoigner, d'en vivre. Nous sommes là, pas simplement pour nous, avec d'autres, pour d'autres. Accueillir la confiance. Nous ne pouvons pas vivre sans confiance. Et cette confiance, elle est toujours un chemin, une traversée, des passages. Marcher sur le lac, c'est quand tant de choses nous parlent plus fort que la parole de Dieu, ou d'une certaine façon nous en distrait ou nous en détourne. Entendre ces mots, viens, si c'est toi le Seigneur, viens, nous dit-il, le chemin, notre chemin. Mais ce chemin, nous le parcourons avec d'autres, pour d'autres. Alors je vous propose aujourd'hui de faire tout d'abord chemin avec le Christ vers les autres, comme le Christ a fait ce chemin. C'est en Saint Marc, au début de l'évangile de saint Marc. Je trouve que c'est particulièrement parlant. Marc, chapitre 1, verset 21, jusqu'au chapitre 2, verset 17. Et nous verrons comment là s'accomplit ce qui est déjà proclamé, mais d'une manière inattendue. C'est un chemin nouveau que le chemin ouvert par le Christ dans un psaume. Psaume 145, 146 dans la Bible, mercredi 4 au matin. Mercredi 4 au matin. Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Croyez à l'Évangile. L'Évangile, oui, qui est bonne nouvelle pour tous les hommes. Au cœur même de tous ceux qui aujourd'hui empêchent vraiment les hommes d'être pleinement hommes dans la condition humaine, pour que se réalise pleinement ce que le Seigneur désire, ce qu'il a fait de chacune et de chacun d'entre nous. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Le règne de Dieu s'est approché, Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Croyez à cette bonne nouvelle d'espérance, pas simplement pour vous, mais avec les autres et pour les autres. C'était tellement bien dit dans ce témoignage de sœur Solange Sia. C'était dans Stabat, il y a quelque temps déjà, puisque bon, c'était son expérience du synode. Sœur de Notre-Dame du Calvaire, docteur en théologie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, membre de l'Assemblée du Synode. Une interview à Catéo. Alors, voilà, le synode, c'est quoi? Et sœur Solange disait, le synode, pour moi, c'est déjà une chance. Je veux partir de ce regard positif. N'attendons pas une fin, car le synode, pour moi, est vraiment un processus. Et j'invite le peuple chrétien à entrer dans cette dynamique. C'est le moment d'ouvrir les portes. Alors, c'est celui qui l'interviewait, celle qui l'interviewait, Catéo, vous avez rappelé le charisme de votre congrégation, l'attention aux personnes qui souffrent, aux personnes pauvres. Quelle place pour elles dans ce processus de synodalité? Réponse de sœur Solange. Je dirais que si ces personnes n'y avaient pas leur place, le synode n'aurait pas lieu d'exister. Pour moi, c'est capital. Notre Église est vraiment une Église avec et pour les pauvres. Et je dis bien avec. Comment, en tant qu'Église, rendre protagonistes les pauvres, en faire des gens qui ont la parole et qui ont une certaine autorité dans la décision les concernant. Ben voilà, une invitation. Eh bien, regardons le Christ en chemin. Le Christ, parole de Dieu. Pas simplement parce qu'il dit les paroles qui nous ouvrent ce chemin de l'espérance, mais parce qu'il est tout entier espérance pour tous. Dans l'évangile de Marc, c'est après l'appel de quatre pêcheurs, laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers partir à sa suite. Alors, ça commence comment? Ça commence par le descriptif d'une journée à Capharnaüm. Étonnant, hein? Souvent, vous savez, quand on nous dit, mais enfin, là, votre journée, comment elle se passe? On dit, vous savez, elles sont différentes, mais il y a un peu une journée type. Là, c'est un peu cela. Si vous voulez, là, dans ce début de l'évangile, bien, ben voilà, ce que sera la vie du Christ. D'une autre manière, il y aura des rencontres différentes. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm, et dès le jour du sabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Autorité, un mot sur lequel on a souvent réfléchi, médité. Mais si on voit l'étymologie, ça veut dire ce qui fait croître, ce qui fait grandir. Quand le Christ parlait avec autorité, c'était pas d'une certaine façon, voilà, pour s'imposer, à l'imposer. C'était pour faire exister. Et justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria, de quoi te mêles-tu, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que cela? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Ça commence où? Dans la synagogue, dans un lieu de prière. Et qu'est-ce qui est mis en évidence? Cet homme. Cet homme-là, qui a besoin vraiment d'être libéré. Démon, c'est tout ce qui vraiment fait que, à travers un accablement de la condition humaine, on se dit, rien à faire. Alors on l'attribue aux puissances du mal. Et ensuite, juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta. Elle se mit à les servir. La synagogue, puis une maison. Une maison comme toutes les autres. Une maison, Jésus est invité. Et puis voilà, cette femme qui est malade, la fièvre. On parle d'elle à Jésus. On peut tout lui dire. Dire, vraiment. Tu peux peut-être faire quelque chose, enfin, c'est pas dit. Il y a quand même une attente. Jésus s'approcha, la fit lever en lui prenant la main. C'est déjà comme le mot de résurrection. Fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Guérie pour servir. En particulier, guérie pour servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Porte de la ville, porte de la maison, en tout cas c'était un peu la cour des miracles. Il guérit de nombreux malades, souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons, et ne laissait pas parler les démons, parce que ceux-ci le connaissaient. Parce que à travers ce qu'il faisait, il y avait comme une espérance trop courte. On l'enfermait. Et comme ce sera tout au long de l'évangile aussi, il fait des signes. Mais qu'il en fasse encore. Des signes toujours plus grands. Qu'il ouvre vraiment un monde nouveau. Mais ce monde nouveau qu'il ouvre, c'est pas sans nous. Le Seigneur suscite, des libertés. Il suscite, lui qui est l'espérance, des témoins, des serviteurs de l'espérance. Toute une journée bien remplie. Mais c'est pas tout. Parce que, il y a la nuit qui vient. Et au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit, et s'en alla dans un lieu désert. Il priait. Alors, c'est vrai. S'il y a une prière qui est là, l'expression d'espérance, c'est bien de notre Père. On n'y fait pas toujours suffisamment attention. Sur la terre comme au ciel. Je l'ai dit déjà hier. Quand Jésus priait, c'était... tout ce cri de la terre, là, entendu, à travers tout ce qu'il faisait, tout ce besoin d'espérance, ses appels, et encore. Et puis en même temps, c'était là, le Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, sera-t-il dit, au baptême, est-il dit au baptême de Jésus. Alors, on se met à la recherche de Jésus. Et ils le trouvèrent. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Eux, ils sont porteurs aussi. Déjà, mais ce qu'il fait, mais il y a tellement de gens en demande, tout le monde te cherche. Et il leur dit, allons ailleurs, dans les bourgs voisins. Arrêtons-nous à ces mots, allons ailleurs. Quel est cet ailleurs? C'est un déplacement. Marche. Mais c'est ailleurs, c'est la profondeur de la rencontre. Et je pense que c'est important pour nous, dans cette étape de notre vie, puis Donc nous vivons là, fort, une retraite. Ailleurs. Ailleurs, c'est le temps où on se laisse rencontrer par le Christ et où on se laisse saisir par l'amour du Christ pour tous. Là où nous sommes, ça donne un sens nouveau. Le ailleurs n'est pas seulement géographique, on pourrait dire il est théologal. Sous le regard de Dieu, au service de tous. Il alla partout de la Galilée, il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Alors, trois rencontres. Le ailleurs, c'est les rencontres avec des personnes. Un lépreux, un paralysé, hein, la porte, et puis l'appel de quelqu'un qu'il fallait surtout pas appeler. Il y a quand même des limites, hein. Et Jésus appelle Lévi. Tout d'abord, un lépreux s'approcha de lui. Et l'enfreint, vraiment là, un interdit absolu. Il le supplie, tombe à genoux en lui disant, si tu le veux, tu peux me purifier. Tu peux me purifier. Ouais, parce qu'il est là. Lui, on peut rien pour lui. Alors c'est bien que c'est le mal, d'une certaine façon, qui l'envahit et qui le possède. Il n'est que mal. Et il est contagieux. L'idée qu'on pouvait se faire de la lèpre. Oui, il a tout enfreint. Mais Jésus aussi étendit la main et le toucha. Il touche celui qu'il ne fallait pas toucher, l'intouchable. Et lui dit, je le veux, sois purifié un instant. La lèpre le quitta, il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. S'irritant, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas la colère, hein. Mais c'est le Seigneur qui sent qu'il peut être comme être pris au piège, quoi. Encore et encore, et plus. Non, on va se perdre, enfin, on va errer d'une certaine façon, s'égarer. Il lui dit fortement, garde-toi de rien dire à personne. Va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse prescrit. Comme nous le voyons, hein, Jésus. Merci encore. Et voilà, encore, Jésus, là, opère comme une conversion du regard. C'est-à-dire que, voilà, le dire à tous les autres, c'est le problème. Non, 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 il lui dit, va témoigner. Il y a un lieu où il te faut témoigner. Jésus, vous voyez, il accomplit la loi. Hein? Mais la loi, c'est un chemin ouvert. C'est-à-dire que, bon, il y en a qui l'absolutisent. Hein? Vous savez, la loi, il faudrait, tu dois, et encore et encore et encore, puis voilà. Qu'il a fait en public, comme si ça dispensait d'une certaine façon, quoi, d'être sur le chemin. C'est quand même quelque chose de très fort, là. Cet homme, guéri, il devient un témoin. Et un témoin, c'est vrai, quand on parle, et aujourd'hui on en parle beaucoup du kérigme, c'est très important, hein. Dire la parole de Dieu, dire l'évangile, pas n'importe comment. Dans l'infini respect des personnes, dans l'écoute, mais dire, pas taire, dire quelque chose. Et le dire, voilà, là où on est, avec ce qu'on est appelé à être et à vivre. Le lépreux. Alors c'est vrai, ce lépreux aussi. Aujourd'hui, bon, on le voit autrement, on voit bien tout ce qui est fait, hein. Par rapport aux lépreux, la journée, justement, là, pour les lépreux, et c'est encore un mal à combattre, et qu'on peut le combattre. Alors, qu'est-ce qui est là remarquable? C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai aussi, il y a ceux qui sont comme ça, laissés au bord du chemin, laissés en marge, toute cette forme de marginaux. Et c'est aujourd'hui, avec des visages très différents, nous savons, et nous aussi, quelquefois, c'est vrai, nous avons du mal à vivre cette rencontre avec celui qui est tellement, tellement différent. Après, il y a une autre rencontre. Et cette rencontre, j'allais dire, c'est un peu comme une sorte de provocation aussi. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était. Et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, comment elle se traduit? Elle se traduit cette foi. Enfin, tout d'abord, ils sont là. Cet homme, il avait droit aussi, il ne pouvait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, voilà la portée. C'est tellement de monde, alors évidemment, hein, c'est pas, on sait bien, hein, mais inutile de le dire et le redire, mais on peut plus facilement ouvrir un toit qu'on ne le ferait aujourd'hui, quand même, hein, dans le type de maison. Et Jésus voit leur foi. Cette démarche-là, c'est-à-dire qu'ils sont sortis d'eux-mêmes, quoi. Quelque chose qu'ils font pour cet homme qui n'est pas, voilà, tout ramené à soi, mais quelque chose qui ouvre, voyant leur foi. Ben Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Mais pourquoi cet homme parle-t-il ainsi, disent les scribes. Il blasphème. Voilà. Il dit, Jésus, là, lui qui a dit, « Je le veux, sois purifié. » Ben voilà, il dit aussi une parole que l'homme ne peut pas s'attribuer, qu'il ne peut que recevoir de quelqu'un d'autre, et le fait que Jésus le dise avec cette autorité manifeste là son mystère, qui il est. Connaissant qu'il raisonnait ainsi, il leur dit, qu'est-il de plus facile, dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Ah, voilà. Pour que vous le sachiez, je te dis, lève-toi, prends ton brancard, va dans ta maison. L'homme se leva, il prit son brancard, sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant, bah, lui aussi il témoigne, parce que il était porté sur un brancard, et voilà, il sort devant tout le monde. Il se lève lui aussi, hein. Comme la femme, enfin la belle-mère de Pierre qui a été guérie, là, il se lève, et là, il témoigne. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Guérison et pardon. Je reviendrai sur ce pardon, là, en disant comment... Le pardon, c'est ce lieu d'espérance. Tes péchés sont pardonnés. Retenons ceci, une fois de plus, redisons-nous ceci. La parole de Jésus, elle remet debout. Jésus qui a vu la foi que cachait d'une certaine façon le geste des porteurs entend ce que les scribes gardent dans leur cœur. Jésus y voit dans le cœur des scribes. Il voit leur raisonnement. Et en même temps, il voit le cœur aussi de ceux qui, là, de tout leur cœur, apportent cet homme. Et puis, plus loin. Alors là, c'est la gratuité absolue. Jésus s'en alla de nouveau. Toute la foule venait à lui, les enseigner, puis il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et il lui dit, « Suis-moi. » Il se leva, Et le suivi. Le public, hein. Mais c'est inconcevable. Il y a quand même des limites. Non. Là, comme nous le chantons, vous savez, là, c'est ce... nous avons chanté souvent, on chantera encore, mais c'est surtout pendant le temps du carême, puis la parabole là, des deux fils, hein, le retour du prodigue, nul n'est trop loin, rien n'est perdu, rien n'est fini pour Dieu. Hein? Mais alors là, ce visage, là, Matthieu, là, comme c'est si bien traduit dans ce tableau du Caravage, là, avec la main posée là sur le fric, pourrait-on dire, quoi. C'est bien ça, ouais. Et puis, ce regard de Jésus. D'ailleurs, un jour, quelqu'un avait fait un rapprochement qui est très beau avec, vous savez, la création, là, tableau de Michel-Ange, là. Ah, de Dieu qui vient toucher le doigt de l'homme, le regard. Et là, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, c'est comme une nouvelle création. Hein, nouvelle création. Cet homme, voilà, il existait. Ben, il existait d'une manière qui était vraiment tellement insignifiante et même condamnable aux yeux des autres. Il existe. Il est appelé. Et puis il y a cette rencontre, il y a ce repas là, ce repas de fête. Quoi, ils mangent avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pêcheurs. Il est venu appeler les pêcheurs. Eh bien, qu'est-ce que peut-être nous pouvons vivre? Nous avons entendu, lu. Mais tout d'abord, ceci. Nous l'avons et nous le chantons là, dans toute cette montée vers Pâques, les yeux fixés sur le Christ, entrons dans le combat de Dieu. Ben, c'est vrai, il y a ce combat. Le Christ vainqueur des tentations, tu vas faire des miracles, tant et tant et tant de plus, mais pourquoi tu as donné ta vie? Combat du Seigneur. Il vient combattre le mal, mais en même temps, voilà, c'est une libération, libérée pour servir. Et d'une certaine façon, vous savez, il n'y a pas un temps où on regarde notre vie comme ça, puis on regarde. Non, mais c'est difficile de tenir tout à la fois, quoi. Et ce regard vrai sur notre vie, sur notre chemin, et ce regard sur les autres. Aujourd'hui, quel est le lépreux pour nous? Aujourd'hui, comment aussi sommes-nous là, à la place un peu de ces porteurs? Comment aujourd'hui accueillons-nous l'appel du Seigneur au cœur de nos vies, toujours en besoin de pardon? Le pardon qui est ce don incessant d'avenir du Seigneur. Je crois que là, quel que soit, j'allais dire, notre spiritualité, hein, mais je pense à la spiritualité ignatienne. Tendu ce texte-là de Michel Feydeau, dire ceci, qui est professeur aux facultés Loyola, par ses paroles, comme par ses actes, par sa présence aux autres et particulièrement aux plus démunis, par sa manière de conduire sa vie, par la façon dont il endure l'épreuve finale de sa passion et de sa mort, Jésus manifeste du même mouvement la profondeur de son humanité et le lien unique qui l'unit à son Père. Du même mouvement, Jésus, pleinement humain, hein, la profondeur de son humanité et le lieu unique qui l'unit à son Père. Pour moi, c'est très éclairant quand on se dit, voilà, Concile de Nicée, pleinement Dieu, pleinement homme. On n'oppose pas la Trinité, la Trinité, et puis Jésus, là, qui fait ce chemin au milieu de nous, au milieu des hommes, et qui prend en compte l'humanité la plus baissée. Jésus manifeste dans un même mouvement la profondeur de son humanité et le lien unique qui l'unit à son Père. J'allais dire, c'est un défi qu'on a à vivre dans nos vocations, dans la réponse à l'appel du Seigneur. Et vous savez combien c'est difficile. Combien aussi dans l'Église, avec le Concile Vatican II, on a été appelé à se rendre encore plus présent aux réalités humaines. Mais quelquefois, c'est devenu tellement prégnant qu'on disait quand même que c'est du Christ que nous l'apprenons sans cesse. Et que tout ce qui est là, dans une vie totalement donnée à lui, mais toute vie est donnée au Seigneur. Mais s'il y a des vies consacrées, je reviendrai, ça dit quelque chose, qu'il y a un mystère. Quand le pape Jean-Paul II disait à des prêtres au Gabon, quelle est la fidélité fondamentale pour le prêtre? C'est de croire à son propre mystère. Ça ne veut pas dire, voilà, être plus ou moins présent aux autres. Ça veut dire être totalement présent aux autres, mais présent dans l'amour de Dieu qui fait vivre. Et je trouve aussi, vous savez, dans l'encyclique du pape, moi, s'il fallait que je retienne, vous savez, on dit quelquefois, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est pratique, parce que comme ça, on n'a pas besoin de se mettre tout dans la tête. Eh bien, c'est le numéro 30. Numéro 30, quand le pape dit ceci. Rendons-nous compte que notre cœur n'est pas autosuffisant. Il est fragile, il est blessé. Mais il a une dignité fondamentale. Mais nous ne pouvons vivre là, cette dignité, ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas le vivre sans l'aide de l'amour de Dieu. Alors, voilà les mots que je retiens surtout. Cœur du Christ, centre de son être, mais qui est aussi ce lieu. C'est là, dans ce cœur, que nous nous reconnaissons finalement nous-mêmes et que nous apprenons à aimer. Dans le cœur du Christ, nous nous reconnaissons finalement nous-mêmes et nous apprenons à aimer. Les deux à la fois. C'est pas, bon, apprends à mieux te connaître toi-même, puis tu connaîtras les autres. Non. Quand tu apprends à te connaître vraiment toi-même, c'est toujours dans cette relation avec les autres. Et dans toute vraie relation avec les autres aussi, tu apprends à te connaître toi-même. Avec tes forces et tes faiblesses. C'est dans ce cœur, le cœur du Christ, que nous reconnaissons finalement, nous nous reconnaissons finalement nous-mêmes et que nous apprenons à aimer. Alors, je parlais de, si vous voulez, cheminement, enfin, méthode, si on peut employer ce mot, mais... Dans méthode, il y a le mot route, autos, odos, ça veut dire le chemin, quoi. Alors oui, et là, l'oraison sulpicienne, près de Saint-Sulpice, alors là, j'ai appris dans la méditation, vous savez, l'oraison, c'est pas trois étapes, c'est pas coupé comme ça, de façon systématique, mais c'est toujours ça. Christ devant les yeux, Christ devant les yeux, prends le temps de regarder. Regardez, ben, on l'est déjà connu. Non, non, prends le temps de regarder. Et c'est toujours avec un regard, j'allais dire nouveau. Devant les yeux, dans le cœur, c'est-à-dire ben, cette relation hein, qui s'établit là. Mais cette relation, bah ben, oui, ce cœur à cœur, comme on dit, mais attention, hein, pas trop avec, je sais pas, toujours de l'affectivité. Oui, oui, mais l'affectivité, elle compte aussi, je le redirai. Hein. Et puis dans les mains. Les yeux, le cœur, les mains. Eh bien, voilà. Du coup, nous pouvons prier avec le psaume. Je vais terminer par là. Parce qu'il y a un psaume qui annonce quelque chose, enfin, dans cette prière-là du peuple de Dieu, il y a une espérance. Et comme nous allons l'entendre une fois de plus, c'est une espérance pour tous. Espérance pour tous. Bon, je pense à ces mots de Jean-Paul II, disant, là où il n'y a pas d'espérance pour les pauvres, il n'y a d'espérance pour personne. Quand je n'espère pas pour les pauvres, mais c'est pas parce qu'on peut être dans, partout à la fois et puis nulle part. Hein. Bon. Mais voilà, s'il n'y a pas d'espérance pour les autres. Je pense aussi à ce commentaire de la parabole du bon samaritain. Très belle, très beau commentaire dans Fratelli Tutti, vous savez, voilà, c'est qui du pape. Mais moi, je pense souvent à ces mots de Martin Luther King. J'y pense à cause des porteurs, là, et du bon samaritain. Martin Luther King disait ceci, pourquoi le prêtre et le lévite ne se sont pas arrêtés? Ben, sans doute parce qu'ils ont raisonné de cette manière. Si je m'arrête, qu'est-ce qui va m'arriver? Tout d'abord, il passait du temps. Hein. Puis je suis pressé. Hein. Et puis, ben, on va vers Jérusalem. Là. Ah oui, il faut être purifié. Il y a du sang. Là. Quand même pas. Alors, je vais perdre quelque chose. Puis peut-être on me dira aussi, tu sais, on ne vaut pas la peine. Hein. Tant de fois qu'il était là, et tout ça, bon. Et il disait, le bon samaritain renversait la question. Au lieu de dire, qu'est-ce qui m'arrivera si je m'arrête pour lui? Qu'est-ce qui lui arrivera si je ne m'arrête pas? Vous savez, c'est le silence, c'est tout ce qu'on peut vivre. C'est quelquefois aussi... Le drame, hein. Moi je vois dans les EHPAD, hein, parlant avec le personnel de santé, même dans les maisons, enfin EHPAD pour les prêtres, hein. Prêtres disant, ben, c'est bien, mais vous savez, l'infirmière quand même est toujours pressée, elle n'a pas le temps. Et qu'il faut dire aussi, mais vous savez, elle souffre beaucoup elle aussi. Hein. Son temps est minuté, moi. Et on est nombreux, vous êtes nombreux dans la maison. Et alors voilà. Mais c'est toujours cette conversion du cœur. Alors c'est vrai aussi, il faut le faire avec humour quelquefois. Hein. Je pense, enfin, je dis ça parce que voilà, c'est souvent on retient des trucs, mais ah, ben, quand là on avait des réparations dans notre maison rue du Regard, on prenait les repas aux missions étrangères de Paris, rue du Bac. Alors vous savez, c'est un endroit idéal pour ceux qui quittent. D'un côté la médaille miraculeuse. Et de l'autre, le bon marché. Mon père, ben vous savez, bon, ben écoutez, ben moi je vous ai déjà donné, mais voilà, comment je donne aujourd'hui? Ben je donne à ceux qui savent mieux que moi ce dont vous avez besoin. Et alors un monsieur sur l'enfermerie dit, mais il ne me donne rien à moi. Ben voilà, ben l'humour, ben ça ne dispense pas quand même de donner, peut-être d'être attention. Mais quelquefois, au moins, je regarde. Je dis ça parce que c'est vraiment bah, toujours très, très, très concret hein, ce que nous avons à vivre. Ben voilà, c'est ce que j'entends avec ce psaume 146, mercredi 4. Je lis ce psaume et je ne dirai pas autre chose. Chante au mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver, leur souffle s'en va et retombe à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait et le ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Mais qui est-il? Qui es-tu, Seigneur? Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'un jeune âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Voilà, j'ai entendu que c'était 10 heures. Merci.